Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Oui. Ce que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre comment nous avons constaté l'attribution analogique. Toute attribution analogique implique un concept analogique. Et je me demande comment naît ce concept analogique. Là, je suis dans l'attitude critique. Oui. On voit bien les deux démarches. Logique et critique se tiennent tout le temps. Hein. Ça, c'est constamment, c'est les deux aspects. Mais la logique est plus facile d'une certaine manière, parce qu'elle regarde des faits, des propositions, notre langage. Nous voyons bien les raisonnements et les propositions dans notre langage, alors nous sommes devant des faits que nous essayons d'analyser, et la logique va, la critique va analyser la manière dont notre intelligence aboutit à ça. Alors, comme nous avions vu que tout concept relevait de l'appréhension, je vois qu'il y a donc deux types d'appréhension tout à fait différents. Un premier type d'appréhension fondamentale qui aboutit à un concept univoque, universel univoque, et un type d'appréhension, nous allons voir maintenant, qui aboutit à un concept tout à fait différent, un concept universel analogique. Donc changement de vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. À la potentialité du genre, c'est que dans sa signification, pas dans l'extension, dans sa signification, le genre implique quelque chose de potentiel, puisqu'il exprime de la réalité ce qu'il y a de fondamental et de plus indéterminé, pour s'étendre le plus possible. Le genre animal implique quelque chose de potentiel, puisque animal peut être déterminé par raisonnable. Le genre, par exemple, le point de vue du vivant, peut être déterminé par vivant impliquant la connaissance, n'impliquant pas la connaissance. Toute donnée générique est capable d'être déterminée par le propre ou la différence spécifique. C'est propre du genre. Donc, si le genre implique une capacité d'être déterminé par le propre ou par la différence spécifique, c'est que justement le genre signifie quelque chose de fondamental dans la réalité, la nature prise dans son indétermination. Oui. Et c'est pour ça que je dis que le genre implique un tout potentiel. Donc, si ça implique un tout potentiel, ça implique nécessairement une limite. C'est pour ça que c'est une des règles constantes de la logique, que le genre ne regarde, n'est dans un genre, n'est capable d'être dans un genre qu'une réalité limitée. Quelque chose qui n'a pas de limite en soi est au-delà du genre. C'est pour ça qu'on dira l'être n'est pas dans un genre. Il y a la fameuse affirmation qu'Aristote reprend tout le temps. L'être n'est pas dans un genre. Le bien n'est pas dans un genre. Le beau n'est pas dans un genre. Le vrai n'est pas dans un genre. Donc, si ce n'est pas dans un genre, ça prouve que c'est dans une autre type de connaissance. Quel est cet autre type de connaissance? Connaissance analogique. Ça, je crois que vous pouvez tous constater ça. Ça me semble constatable. Constatable immédiatement. Bon, le point de vue plus difficile, c'est ce que nous essayons maintenant. Une fois qu'on a constaté ça, on essaie d'en comprendre la raison. Parce que le philosophe ne peut pas s'arrêter uniquement de dire « oui, je constate, oui, attribution analogique, attribution univoque. » C'est très bien, c'est déjà quelque chose de constater ça. Mais je peux aller un peu plus loin. Comme j'ai essayé de comprendre d'où naissait l'universel univoque, je peux me poser la question d'où naît la connaissance analogique. C'est quand même très important de comprendre ça. Alors à ce moment-là, je vois que toute la philosophie elle est au niveau de la connaissance analogique. Et donc la connaissance univoque, elle est pré-philosophique. C'est très très important de comprendre ça, alors quand on dit la philosophie est au niveau des catégories, mais pas du tout. Les catégories, c'est pré-philosophique. Ça ne peut pas être autrement. C'est pré-philosophique. Ça ne peut pas être autrement parce que justement, c'est une connaissance qui reste à un niveau, au fond, assez extérieur, tout en disant la réalité qu'il cherche à essayer de définir, comme nous le verrons. Alors, j'essaie de comprendre maintenant. J'essaie de comprendre comment va naître la connaissance analogique. Alors après, une fois qu'on a compris ça, on verra tout de suite les niveaux différents d'analogie. Parce qu'il y a analogie d'analogie. Ça, c'est forcément. Vous êtes au niveau de l'analogie, vous avez des niveaux différents d'analogie. Alors, comment va naître la connaissance analogique? Je dis que la connaissance analogique naît à partir de l'induction des principes propres, au point de vue philosophique. Toute induction présuppose une expérience, toute induction philosophique, hein, je ne parle pas de l'induction de Bacon. Parce que l'induction de Bacon, c'est tout à fait autre chose. Hein, c'est une généralisation, c'est autre chose. Donc, je parle ici de l'induction type aristotélicien, qui est une induction qualitative. Celle de Bacon est quantitative. C'est une manière, si vous voulez. Qualité et quantité, ça nous aide un petit peu à comprendre. Hein. Alors, il faut comprendre que l'induction aristotélicienne est au niveau qualitatif. Alors, cette induction aristotélicienne part de l'expérience et je découvre les principes propres. Toujours, hein, toute induction implique une interrogation. Si je n'interroge pas, je n'induis. L'induction est à la philosophie ce que l'hypothèse est à la recherche scientifique. Si vous n'avez pas d'hypothèse, vous n'avancez pas. C'est très vrai, vous n'avancez pas. Il faut avoir une hypothèse de recherche pour pouvoir avancer. On a tous comme ça. Dès que vous voulez faire un petit travail, vous avez une hypothèse de recherche. Et vous voulez voir si cette hypothèse se vérifie ou pas. Alors à ce moment-là, vous voulez vraiment la prouver. Ça devient intéressant. Donc, il y a une hypothèse de recherche. L'hypothèse, c'est de l'ordre de l'interrogation. Alors, l'interrogation au plan philosophique, c'est cette hypothèse fondamentale qui fait que je regarde l'expérience d'une manière particulière et c'est l'interrogation liée à l'expérience qui permet d'induire. L'induction est le fruit des deux. La coopération des deux. La coopération des deux qui permet à partir de là de saisir les principes propres. Alors, je prends exprès un exemple pour que vous compreniez. Je pars de l'expérience de l'amour d'amitié. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié? Ou en vue de quoi l'amour d'amitié? C'est mieux. En vue de quoi l'amour d'amitié? Je dis en vue de quoi l'amour d'amitié? En vue d'aimer. L'amour d'amitié possède en elle-même sa propre finalité. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime parce que tu m'es très utile pour faire de la philosophie », c'est très très humiliant pour la personne, très très humiliant, parce que vous vous servez d'elle pour autre chose. Je t'aime parce que tu as une influence auprès de telle ou telle personne et que je désire capter cette influence. Alors, c'est pour ça que c'est très gênant les gens qui ont des professions très... qui ont des places très élevées, ne savent jamais si les personnes qui les fréquentent et qui vont autour d'elles, c'est vraiment par amour pour elles, ou c'est tout simplement parce que elles sont puissantes. Alors il y a un discernement très très difficile à faire, très très difficile. Quand on n'a aucune puissance, aucun pouvoir, alors on est recherché pour soi-même. Tandis qu'au contraire, quand on a un pouvoir, une puissance, ça devient beaucoup plus difficile à faire le discernement. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, l'amour d'amitié en vue de quoi? En vue d'amour. Alors, l'amour est donc le principe, la fin de l'amour d'amitié. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est-il une catégorie? Je reviens à la question tout à l'heure, à laquelle vous avez dû réfléchir. Alors, je vous pose la question, est-ce que l'amour est une catégorie? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous pose la question. Parce que l'amour est une catégorie. Je ne vais pas bondir de mettre l'amour dans une catégorie pour pas le mettre dans une catégorie. L'amour n'est pas une catégorie. C'est impossible. L'amour est au-delà des catégories. C'est au-delà des catégories. Ça, dans la philosophie analytique, est un peu plus. L'amour est un peu plus. C'est l'amour est au-delà des catégories. Si l'amour est au-delà des catégories, je vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous voyez, j'ai vu que c'était l'amour parfait, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, l'amour, c'est le bien qui m'attire. C'est vrai, c'est le bien qui m'attire. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le bien qui m'attire. Le bien, c'est ce qui attire tout le monde. C'est l'effet du bien sur moi. Quand je suis en présence de la vie, je suis en présence d'une personne que j'aime, qui est mon bien. Elle m'attire. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle m'attire. Elle suscite en moi l'amour. Un amour, c'est une force d'attraction. Ça m'attire, ça me prend. Je ne peux pas le définir, hein. Je ne peux pas définir, c'est au-delà des catégories. Si l'amour était dans les catégories, je pourrais définir ce que c'est que l'amour. L'amour est au-delà des catégories, je ne peux pas le définir. Mais je peux essayer de comprendre qu'est-ce qui est à la source de l'amour. Et je dis ce qui est à la source de l'amour, c'est le bien. Et c'est le bien qui m'attire. Et donc le bien joue le rôle de cause finale. Ah, je commence à mieux comprendre. Hein. L'amour d'amitié, je l'expérimente. Voilà l'objet d'expérience. L'amour d'amitié, déjà, je me cherche qu'est-ce que, en vue de quoi l'amour d'amitié. Je dis ça peut être en vue d'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Le bien. Le bien personnel. Une personne, le bien spirituel, une personne que j'aime. C'est la cause finale. C'est ce qui me finalise. C'est ce qui m'attire. Bon. Une fois que j'ai découvert ce principe, très très fondamental, hein, c'est le principe de la finalité. Dès que vous aimez quelqu'un, vous vivez de la finalité. Dès qu'il y a un amour réciproque, il y a un certain sens de la finalité. Et vous découvrez à ce moment-là ce que c'est que la finalité. Et vous comprenez que cette finalité est au-delà de toutes les catégories. Que les catégories n'expliquent rien de la finalité. Absolument rien de la finalité. La finalité est au-delà. Donc je me pose la question, mais c'est très très bien que cette finalité. Je réfléchis. Puisque le bien est cause finale. Vous voyez, je peux réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le bien. En lui-même, pris en lui-même. Alors à ce moment-là, j'essaie de saisir la signification du bien. Je suis donc en face de ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez comment le bien apparaît. La notion du bien apparaît à partir de cette expérience. J'ai essayé de comprendre, je ne vais pas tout de suite dire, quand je vis l'amour d'amitié, quand je le vis, je ne pose pas la question du bien. Mais si vous réfléchissez sur ce que c'est que l'amour d'amitié, vous voyez que la modalité est en vue d'un amour parfait, vous vous posez la question qu'est-ce que c'est que l'amour, et vous découvrez ce que c'est que l'amour. Vous voyez, c'est la réflexion que vous faites, réflexion philosophique, qui vous permet de découvrir ce que c'est que la finalité, au niveau de votre vie humaine. Et vous découvrez à ce moment-là ce que c'est que le bien. Et vous vous demandez quelle est la signification du bien. Et vous voyez que le bien a une signification qui n'est pas univoque, mais qui est analogique. Vous voyez donc à partir de là qu'une notion analogique, un concept analogique comme le bien, ce concept analogique comme le bien, il apparaît à partir de l'induction où j'ai saisi la cause finale. Vous voyez ça comment? Alors, cette appréhension, elle a un caractère tout à fait particulier parce qu'elle présuppose un jugement. Induction. Elle présuppose un jugement. Donc c'est une appréhension qui n'est pas du tout comme l'autre précédente. C'est une appréhension qui est toujours liée au jugement. Tout concept analogique est un concept analogique qui est bien enraciné dans une appréhension, mais une appréhension d'un type très particulier, puisque cette appréhension implique le jugement. Et qu'elle implique radicalement l'induction. Vous voyez, c'est un concept très spécial, ce n'est pas du tout un concept premier. C'est un concept qui présuppose un autre concept, un concept qui m'évoque, auquel j'ai dépassé ce concept et j'ai découvert ce que c'était qu'un concept analogique. Et là, je pourrais dire concept fermé, concept univoque, concept ouvert, concept analogique. Morale fermée, morale ouverte. Vous voyez ? Bon, je peux creuser un tout petit peu plus, hein. Vous essayez de comprendre. Je suis parti d'un jugement de l'expérience. Toute expérience implique un jugement d'existence. Ceci est. Il y a toujours un jugement d'existence. Hein. Tout le temps. C'est radical. C'est fondamental. Je me pose la question, est-ce qu'au fond, la connaissance analogique, est-ce qu'elle ne naît pas à partir du jugement d'existence? Si c'est ça, c'est très intéressant. Vous voyez, ça vous met tout de suite en présence de la naissance du jugement d'existence, de la naissance de l'analogie. Le jugement d'existence, ceci est, je vous l'ai déjà dit, je peux regarder ceci, je suis dans des catégories, je peux insister sur est. Et est au-delà des catégories. Et ce n'est pas une catégorie, et c'est dans l'ordre de l'être. Vous dites ceci est. Réfléchissez quand vous dites le jugement d'existence, ceci est. Vous affirmez ceci, mais ce n'est pas ceci qui vous intéresse, puisque vous pourrez dire ceci est, cela, et ainsi de suite. J'existe, tu existes, et puis nous existons. Bon, c'est très très bien. Nous regardons les diverses catégories, et puis nous voyons au-delà, parce que ceci est toujours dans une détermination particulière. Donc c'est le sujet. Or le sujet, c'est d'une certaine manière la première des catégories, la substance première. Donc le sujet. Je vois que « est au-delà des catégories. Le verbe être, la signification du verbe être, est au-delà des catégories. Donc, dès le jugement d'existence, ceci est présent à toute expérience, il y a une connaissance analogique au-delà des catégories. Et donc, le fondement de la connaissance analogique, c'est le jugement d'existence. Alors, il faudrait faire la contre-épreuve. Le fondement, ça je crois que c'est très important, une fois qu'on a saisi ça, on avance au point de vue philosophique. Le fondement de toute connaissance analogique, le fondement dernier de toute connaissance analogique, c'est le jugement d'existence. Parce que vous ne pouvez pas ramener le jugement d'existence aux catégories. L'être n'est pas dans les catégories. L'être n'est pas dans le genre. Et donc il n'est pas dans les catégories. Il est au-delà. Une fois que vous comprenez que le jugement d'existence est le fondement d'une connaissance analogique, je peux me poser la question. Si je mets entre parenthèses le jugement d'existence, vous voyez, Husserl réapparaît, la phénoménologie apparaît. Si je mets entre parenthèses le jugement d'existence, je mets entre parenthèses, je ne veux pas regarder le jugement d'existence, qu'est-ce que je regarde à ce moment-là? Je regarde les idées. C'est tout de suite, je regarde les idées sont coupées. J'ai une réflexion eidétique. Si je mets entre parenthèses le jugement d'existence, qu'est-ce que je possède quand je mets entre parenthèses? Les idées. Les idées sont-elles vivantes ou analogiques?
Les idées sont-elles vivantes ou analogiques?
J'ai dit tout à l'heure, faisons grande attention, j'ai dit tout à l'heure, il y a un concept univoque. Un concept analogique. Les idées, c'est les concepts. Hein. Alors, la question est très, très délicate. Est-ce que les idées, donc nos concepts, sont-ils univoques, sont-ils analogiques? Quand nous avons dit que nous avions des concepts univoques et des concepts analogiques. Alors, je pourrais dire, mes amis, j'ai des idées analogiques. Et donc, dans la réflexion idéétique, je peux très bien voir des idées analogiques. Je peux réfléchir sur l'idée de bien que j'ai. Mais en fait, attention. Si je coupe l'idée du jugement d'existence, est-ce que l'idée reste encore analogique? C'est là la difficulté. Vous comprenez? Si de fait, la source de la connaissance analogique, c'est le jugement d'existence. Si la source de la connaissance analogique, c'est le jugement d'existence. Si donc je mets entre parenthèses le jugement d'existence, et que je considère mes idées, dans mes idées, j'ai des idées au niveau catégorique, donc qui sont univoques, et puis j'ai des idées au niveau analogique, au-delà des catégories. Tout ça est né à partir du jugement d'existence. Et tout cela demeure lié au jugement d'existence. Mais si je mets entre parenthèses le jugement d'existence, est-ce que les idées que j'ai, est-ce qu'elles demeurent vraiment analogiques? ou est-ce qu'elle demeure liée à tout mon conditionnement humain? Et à ce moment-là, elle redevient univoque. Oui. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est très intéressant de se la poser. Je crois profondément, personnellement, que si on met entre parenthèses le jugement d'existence, toutes nos idées reviennent nécessairement à quelque chose qui est au niveau de notre conditionnement humain. Parce que les idées ne peuvent être analogiques que si elles sont liées en acte au jugement d'existence. Si donc je les coupe du jugement d'existence, elles redeviennent catégoriales. Oui. Et c'est pour ça que m'enfermant dans les idées, je ne pourrai jamais rejoindre le réel. C'est le gros problème de Heidegger, c'est le gros problème de Merleau-Ponty, quand ils ont rompu avec Husserl. En disant, nous voulons redécouvrir l'être. Merleau-Ponty dira, je veux chercher l'être sauvage. C'est dans son livre, très beau du reste, un livre posthume, c'est quand il dans Visible et Invisible, c'est le dernier livre de Merleau-Ponty. Était en train de l'écrire, et il est mort pleine force. Hein. Et alors, ce livre est paru après, et c'est très beau, parce qu'il veut dépasser la méthode phénoménologique pour redécouvrir l'être sauvage. Quand vous regardez Heidegger, vous voyez que Heidegger a rompu avec Husserl pour découvrir une ontologie fondamentale. Le désir de redécouvrir l'être. On a été coupé au point de départ par le jugement d'existence, on désire le redécouvrir. Peut-on le redécouvrir à partir de l'idée? À partir de l'idée, je ne peux jamais redécouvrir l'existence. Donc je ne peux jamais redécouvrir l'acte d'être. Très curieux ça. Mais au fond, c'est le drame de notre philosophie d'aujourd'hui. Ça. Si, est-ce que je peux? C'est vraiment, il faut se poser la question, il faut y revenir plusieurs fois là-dessus, parce que c'est capital, ça. Est-ce que je puis encore saisir l'analogie quand j'ai mis entre parenthèses le jugement d'existence? Ou la mise entre parenthèses du jugement d'existence ne m'enferme-t-elle pas nécessairement sur une pensée catégorique? C'est-à-dire sur le conditionnement de ma vie intellectuelle, et non plus du tout sur la finalité de mon intelligence qui est faite pour le réel, qui est faite pour ce qui est. Il faut au moins vous poser la question. La résoudre, c'est pas tellement la résoudre, hein. c'est pas tellement ça, c'est d'essayer de se poser la question en disant, mais est-ce que c'est vrai, l'idée, quand je réfléchis sur l'idée et qu'elle est coupée du jugement d'existence, je ne saisis plus dans l'idée que l'aspect du conditionnement de mon intelligence qui a formé cette idée. Ad modum recipientis, hein, selon le mode du récipient. Et le mode du récipient, c'est justement ma connaissance conceptuelle. Alors on comprend très bien ce que dit Heidegger quand il dit « Pour redécouvrir l'être, il faut être préconceptuel. » Vous voyez pourquoi? Parce que le conceptuel, pour lui, reste catégorial. Si le concept reste précatégorial, il faut donc dépasser le concept. Il faut une connaissance préconceptuelle. Tandis que si vous saisissez qu'il y a deux registres de la connaissance conceptuelle. Un premier registre univoque au niveau des catégories, et un registre analogique lié au jugement d'existence, c'est tout à fait différent. Ma connaissance conceptuelle est liée au jugement d'existence. Et si ma connaissance conceptuelle est liée au jugement d'existence, cette connaissance n'est plus entièrement enfermée dans les catégories, et elle s'ouvre à autre chose. Essayez de saisir ces choses-là, venez, et ça vous le saisissez dans la connaissance analogique. Bon, je crois que c'est suffisant maintenant. Hein. Nous y reviendrons pour la connaissance analogique, si vous voulez, parce que c'est quand même important de saisir ça. Je crois qu'il y a un premier moment, donc, de la saisie analogique, qui est le point de vue de l'attribution analogique. C'est ce qu'on appelle habituellement l'analogie d'attribution. Et c'est la première, hein. C'est la première que je constate, l'analogie d'attribution. Cette analogie d'attribution, saint Thomas l'appelle l'analogie adonum. À la suite d'Aristote, pros em. Aristote n'appelle jamais ça l'analogie. Saint Thomas l'appelle, lui, à cause des arabes, voilà, dire que c'est l'analogie ad unum. C'est l'analogie d'attribution, l'analogie vers l'un. Alors, il y aura d'autres aspects de l'analogie. Je ne fais que les citer ici. Il faudra les regarder pourquoi. On dira qu'il y a l'analogie proportionnelle, l'analogie de proportionnalité et l'analogie métaphorique. Donc, c'est-à-dire que c'est diverses analogies. Toujours essayer de comprendre. Donc, vous voyez, il y a l'analogie de l'analogie. Parce que la connaissance analogique n'est pas d'un seul sens. Vous avez donc l'analogie d'attribution, l'analogie de proportion, l'analogie de proportionnalité et l'analogie métaphorique. Alors, je vous dis simplement ici, hein, parce que tout ça c'est important pour vous, pour les théologiens, c'est intéressant de voir ça. L'analogie de proportion, où elle se situe? L'analogie de proportion, elle se situe au niveau de la découverte du principe propre de l'être saisi comme acte. C'est-à-dire, c'est l'analogie la plus profonde. C'est quand je saisis que ce qui est acte ou puissance. C'est donc autrement dit, là nous avons regardé l'induction première, qui implique le jugement d'existence, nous avons vu que c'était le fondement du concept analogique. Quel est le concept analogique le plus analogique? Donc, premier dans l'ordre génétique, et ici je regarde le premier dans l'ordre de perfection. Quel est le concept analogique le plus analogique? C'est celui qui m'est donné à partir de la découverte de l'acte. Et c'est à partir de là que j'ai l'analogie de proportion. L'analogie de proportionnalité, c'est de comprendre que cette analogie va s'expliciter par le point de vue de l'un et du multiple. Et l'analogie métaphorique, c'est l'analogie qui va s'appuyer non plus sur les principes propres, mais sur les propriétés. Alors, une fois que vous avez saisi ça, hein, vous avez tous les changements de vitesse. Ce qu'il faut, c'est bien les manœuvrer. Il faut bien... Je veux bien le reprendre d'une autre manière, parce que c'est quand même intéressant de saisir ça. Parce que c'est des notions qu'il faut quand même essayer de saisir. Non. Ça, c'est directement dans saint Thomas. Hein. C'est directement dans saint Thomas. C'est pas dans Aristote, c'est dans saint Thomas.
Alors, vous avez l'analogie d'attribution. Celle que nous voulons voir, hein.
L'analogie d'attribution.
L'analogie d'attribution, c'est l'analogie ad unum. Je prends expressant parce que, comme c'est des expressions consacrées, il faut savoir. L'analogie d'attribution, c'est l'analogie ad unum.
Alors, prenez l'exemple.
Dieu est bon. L'homme est bon. Pierre est bon. C'est la bonté qui montre Dieu ça. Analogie,
ça j'espère que vous avez un peu compris, l'analogie d'attribution.
Dieu est bon, Pierre est bon. Vous voyez que la bonté est attribuée diversement à Dieu, diversement à homme. Vous voulez, vous mettez Dieu est bon, le chocolat est bon, moi je veux bien.
Ça vous fait mieux comprendre, ça. Ça fait mieux comprendre, ça fait deux extrêmes. Hein. Le chocolat est bon, la bonté du chocolat. C'est quand même quelque chose, la bonté du chocolat. Et vous envoyez le même mot pour dire Dieu. C'est quand même très curieux, ces choses-là. C'est quand même très, très étonnant. C'est les confusions que ça peut faire, vous voyez. L'analogie, c'est vrai, ça peut venir d'un lieu de confusion. Parce que si vous oubliez que c'est la diversité qui est première, vous confondez tout. L'analogie donne d'abord la diversité. Puis il y a quelque chose de commun. Il y a un petit quelque chose de commun. Un petit koinon, comme on dit en grec. Hein, parce que le grec fait mieux comprendre. Hein. Alors, un petit koinon, un petit quelque chose de commun.
Donc, analogie de proportion.
L'analogie de proportion, c'est dans la découverte inductive de l'acte. Vous découvrez que ce qui est premièrement acte et en deuxièmement en puissance. L'être se dit en acte et en puissance. Vous êtes en face de l'analogie de proportion. L'analogie d'attribution se fonde sur le jugement d'existence. Enfin, je crois qu'on peut le dire. L'analogie de proportionnalité se fonde sur la découverte de l'acte comme fin de ce qui est et la puissance comme entièrement ordonnée à l'acte. L'être se divise en acte et en puissance. Alors, à partir de là, vous pouvez saisir toutes les analogies possibles au niveau de l'acte et de la puissance. Vous pouvez dire, par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez, l'analogie de proportion, c'est dire le corps est à l'âme ce que l'être en puissance est à l'être en acte. Le corps, là vous avez une proportion. Le corps est à l'âme ce que l'être en puissance est à l'être en acte. C'est-à-dire une proportion, c'est une proportion, c'est simplement une proportion. Alors, le corps est à l'âme ce que l'être en puissance est à l'être en acte. Vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. L'âme est l'acte du corps. L'être en puissance est totalement ordonné à l'être en acte comme le corps est ordonné à l'âme. Vous pouvez prendre des quantités d'autres exemples, n'est-ce pas ? Dès que vous avez compris que c'est au niveau de l'acte et de la puissance, vous pouvez prendre tous les analogués, toutes les choses parallèles à ça. Alors vous avez une proportion. C'est ça qu'on appelle l'analogie de proportion. Oui, c'est très différent de l'analogie de Adounoum. Ça c'est l'analogie proprement dit. Aristote l'aime de dire allô, allô. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout de suite compris. Chaque fois que vous téléphonez, allô, allô, vous êtes devant l'analogie de proportion. Allô, allô, c'est-à-dire autre, autre. Puisque allô, c'est autre. Alors, autre, autre. C'est ça que quand vous dites allô, vous parlez à l'autre. Vous appelez l'autre, vous appelez l'autre, le désirable. Alors, vous avez l'autre, autre. C'est les deux aspects, autre, autre. Il y a la diversité absolue, autre, autre. Et il y a quelque chose de commun, très difficile à saisir, l'être. Alors, l'analogie de proportionnalité. C'est un mal emploi. L'analogie de proportionnalité, c'est une analogie. Ça, Aristote ne l'emploie pas. L'analogie de proportionnalité, c'est tout simplement de comprendre que cette analogie de proportion peut s'étendre grâce à l'un. L'un est multiple. C'est l'analogie qui va faire intervenir l'un est multiple. Alors, ensuite, l'analogie métaphorique. L'analogie métaphorique, elle joue un très très grand rôle. C'est tout symbolisme métaphorique. Le symbole. La parole de Dieu symbolise. Vous voyez, quand vous dites que le Christ est un lion, le lion de Juda, c'est vraiment un langage symbolique de l'analogie métaphorique. Vous mettez en parallélisme une propriété d'une réalité spirituelle par rapport à une réalité matérielle. Vous avez toujours le point de vue de la métaphore. Vous avez une certaine ressemblance. Les poètes sont des gens qui découvrent les métaphores. Votre intuition poétique, chaque fois que vous avez une intuition poétique, vous découvrez une nouvelle métaphore. Une métaphore inédite. Vous êtes un grand poète si vous arrivez à découvrir des métaphores inédites. Parce que ça suggère, ça fait des choses extraordinaires. Grâce à la métaphore, vous dites sans dire. C'est ce qu'il faut faire. Vous dites sans dire. Alors quand vous dites sans dire, vous êtes en face du présent absent. C'est toujours la métaphore. Alors grâce à ça, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Et c'est vrai, le point de vue poétique, c'est ça. Vous dites et en même temps, vous suggérez. C'est le propre de la métaphore. Et au fond, c'est tout. C'est l'analogie, vous voyez, le procédé analogique, c'est toujours de dire sans dire. Tout. Parce que le propre de la connaissance analogique, vous voyez, il y a toujours deux termes. Il y en a un que je connais, l'autre que je connais moins bien. Et celui que je connais moins bien, il est en référence. Je connais l'acte, et par là, je connais la puissance. Mais la puissance, je ne la connais jamais sans l'acte. Donc j'ai une connaissance analogique de la puissance, puisque je ne la connais jamais sans l'acte. Et ainsi de suite. Donc voilà les grandes notions analogiques.
Ça simplement mettez ça en nota bene, puisque nous avons touché le point de vue de l'analogie.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je vous demande d'abord s'il y a des questions. Parce que ça, c'est là.
Oui, c'est très difficile l'analogie proportionnalité.
C'est là, vous voyez, parce que c'est au fond une question, un procédé d'extension dans le point de vue de l'analogie. Vous étendez la chose, vous voyez. Alors, vous pouvez dire, par exemple, quand vous dites l'un est l'acolyte de l'être, je prends exprès l'exemple que prend Aristote, enfin, il ne prend pas comme je vous le donne là, hein, mais quand il dit l'un est l'acolyte de l'être, c'est très beau, c'est très joli. Je ne traduis pas le grec, parce que c'est acoutel, c'est-à-dire accompagne. L'acolyte, c'est celui qui accompagne. Vous êtes acolyte de quelqu'un quand vous l'accompagnez. C'est acolyte. L'un est l'acolyte de l'être. Donc, si l'un est l'acolyte de l'être, vous comprenez que tout de suite, le multiple est l'acolyte de la puissance, de l'être en puissance. L'un est l'acolyte de la substance. Puisque la substance, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Et le multiple est l'acolyte de l'accident. Vous avez donc là un argument de proportionnalité. Parce que vous glissez d'une première division à une autre division de l'être. Et vous le glissez. C'est ça le propre de la proportionnalité. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Je reprends. C'est important. Parce qu'au fond, j'ai fait la petite enquête là-dessus. On voit qu'on emploie constamment le point de vue de l'analogie de proportionnalité et personne ne sait jamais ce que ça veut dire. On le répète parce que saint Thomas l'a dit. Vous voyez ? C'est comme beaucoup de choses. Et saint Thomas le dit sans donner beaucoup de raisons. Vous voyez ? Il dit ça dans le De Veritate et puis après il ne le répète pas. Alors, les arguments d'analogie de proportion dans saint Thomas, c'est tout le temps. Et la proportionnalité, elle a quelque chose de particulier, c'est parce qu'elle va chevaucher sur deux aspects différents. Ça, je dis, c'est une extension. Alors, je prends. L'être se divise en substance et accident. Il divise comme ça. L'être se divise en acte et en puissance. Tous ceux qui ont compris cette division de l'être en acte et en puissance, et substance et accident, savent que l'être est dit en premier lieu de la substance, en second lieu de l'accident. Prenez qualité, c'est plus facile à comprendre. La substance et la qualité. L'être se divise. Parce qu'accident, ça pourrait être le pro, ça vous tomberait dans les prédicables. Accident, ça ne va plus du tout. Des qualités. L'être se divise en substance et qualité. L'être se divise en acte et en puissance. C'est premièrement l'acte, second lieu, la substance. Donc, il y a un ordre entre les deux. Il y a un ordre entre les deux. Ces deux divisions de l'être. Donc les deux divisions de ce qui est. Ce qui est vu du point de vue de l'être. Hein. Ce qui est. Ces deux divisions de l'être sont totalement différentes. L'une est au niveau de la cause formelle, l'autre est au niveau de la cause finale. Donc elles sont totalement différentes. Elles ne chevauchent pas. Vous allez tout de suite comprendre. Elles ne chevauchent pas. Si je les applique l'une à l'autre, je fais des confusions complètes en disant, oui, ce qui est premier dans l'ordre de l'être est nécessairement premier dans l'ordre de l'acte. Pas du tout. Il y a des accidents qui peuvent être actes. Par exemple, le fait de penser, le cogito. Le cogito est un accident. Ce n'est pas ma substance. Je peux cogiter, je peux très bien ne pas cogiter. Donc c'est un accident, vu du côté de ma substance. C'est pas ça qui va me définir. Parce que cogiter ou aimer,
C'est quelque chose qui est accidentel dans ma vie.
Or, le cogito fait partie de l'acte. Mais vous voyez que le cogito mis dans la perspective de la division de l'être en substance et qualité, le cogito, c'est une qualité. Et vu du côté de l'acte de la puissance, le cogito devient l'acte.
Parce que c'est une opération.
Qu'est-ce qui est la puissance? C'est ma faculté de connaissance. C'est mon intelligence qui est en puissance et qui cogite
et qui passe à l'acte. Donc la même réalité, on vient vous faire comprendre que ces deux divisions de l'être sont dans deux différences différentes et que je ne peux pas les passer de l'une à l'autre. Et cependant, je peux de temps en temps passer de l'une à l'autre.
Quand je prends troisième division, l'être se divise en un et multiple. Et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de nouveau. L'un peut regarder la substance, peut regarder l'acte. Le multiple peut regarder l'accident et peut regarder la substance. Et donc l'un et multiple unifient ces deux divisions. Oui. L'un et multiple unifient ces deux divisions, parce que au niveau de l'un et multiple, ça colle. Vous voyez, l'écoute est très très curieux. Et c'est ça la proportionnalité. C'est que je me sers donc d'une division qui va être différente des deux premières et qui va les unifier, bien que ces deux premières sont très différentes. Vous voyez, comme ça peut faire des choses terribles au point de vue de la pensée. L'être se divise en un multiple, c'est sûr. Et l'être, l'un, le premier, le multiple, le second. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que l'un est multiple, chevauche ou unit ces deux premières divisions de l'être. De sorte que je peux dire que l'un est l'acolyte de l'être, comme le multiple est l'acolyte de l'accident. L'un est proportionnel. Donc alors je peux dire l'un par rapport au multiple, et comme la substance par rapport à l'accident, et l'acte par rapport à la puissance. Vous avez proportionnalité. Oui. Alors vous voyez comme c'est dangereux. Proportionnalité peut être très dangereuse, parce que j'unifie deux choses diverses en les dépassant dans leur propriété. Alors, à partir de là, si je ne suis pas très attentif, je fais des confusions terribles. J'arriverai à unifier la division de substance, accident et acte et puissance, parce que c'est uni en dans un troisième. Tout ce qui est uni en un troisième est uni entre eux. Si ces deux divisions sont unies dans la troisième, l'un est multiple, je peux les unir entre eux. Et alors quand je les unis entre eux, j'ai une confusion totale. Donc la proportionnalité va être d'essayer de découvrir un facteur commun à deux diversités antérieures. Et grâce à ce facteur commun, je peux les unifier sous un aspect particulier, mais pas plus. Tandis qu'au contraire, l'analogie, alors proprement métaphorique, elle est tout à fait autre chose. Elle fait appel à des accidents. Le lac sourit, le lac rit. Bon, c'est la fameuse métaphore qu'on donne habituellement. Vous dites le lac rit, c'est presque équivalent, vous voyez. Ce qui ne rit pas du tout, le lac. Il n'a pas d'intelligence pour lui. Pas une capacité raisonnable pour rire. Pourtant, vous dites la crise. Ça. Et ainsi de suite, toutes les métaphores. Prenez n'importe quelle métaphore, c'est très important de voir ça. Et alors, dès que vous êtes au niveau métaphorique, vous êtes en dehors de la science.